VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé. Mais juste avant, un résumé des principales nouvelles du monde. Au Burkina Faso, l'inquiétude a fait place à l'angoisse alors que les forces armées ont mis en place un assaut contre le général Gilbert Diendéré et l'ex-garde présidentiel de Blaise Compaoré. À quand le désarmement du RSP? Selon nos correspondants sur place à Ouagadougou, on a entendu aujourd'hui des tirs à l'arme lourde dans le quartier où se trouve justement la base de l'ex-RSP. D'après les dernières informations, ces tirs ont été entendus dans le quartier de Ouagadougou, où se situe le palais de Kossia, mais il semblerait que l'armée loyaliste tente de déloger le général Gilbert Diendéré et les soldats qui lui sont encore restés fidèles. Alors, Issa Napon, vous êtes sur place dans la capitale burkinabé. Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que l'on sait ce qu'il est advenu du général Diendéré?
Je pense que jusque-là, les informations ne passent pas de façon fluide. La presse est véritablement tenue à l'écart du théâtre des opérations, qui est donc le quartier Ouagadougou, où se trouve le siège du palais présidentiel. Et les journalistes sont de temps en temps convoqués au niveau de l'état-major général des armées, qui a pressé au niveau du ministère de la Défense, donc des services de communication, mais qui donne des informations au compte-goutte. Ce que nous savons, c'est que le général Gilbert Diendéré et son dernier carré de fidèles restent retranchés au camp Nabokov 2, qui juxte donc le palais présidentiel, alors que le chef de police, on en parlait tantôt, a subi des déconvenues considérables avec les défections de taille. Aujourd'hui, du chef du corps intérimaire de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le commandant Abdelaziz Korogo, et le capitaine Abdoulaye Dao, qui ont entraîné dans leur sillage des militaires et qui sont tous rendus aux forces républicaines.
Alors, ensuite,
un peu moins de 3 heures, des rafales d'armes automatiques et des tirs à l'arme lourde ont été entendus sur un peu plus de 2 minutes.
Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il nous reste, Issa Napon, il nous reste seulement 20 secondes, est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore des tirs?
Non, à l'heure où nous parlons, les tirs ont cessé et la population reste attentive au bon ordre de sécurité que va donner certainement d'un moment à l'autre le chef d'état-major général des armées. Sinon, les tirs ont cessé.
Merci Issa Napon, un de nos correspondants à Ouagadougou, au Burkina Faso. En RCA, Bangui toujours en proie aux violences intercommunautaires. Ce mardi était plutôt calme, malgré des tirs à l'arme lourde et légère entendus dans les quartiers nord. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Contrairement à ces dernières 72 heures, la capitale centrafricaine a été calme aujourd'hui, malgré la persistance des barricades. Aucun affrontement n'a été rapporté dans les zones affectées ces derniers jours par les violences. De nombreuses scènes de pillage des locaux des organisations humanitaires ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans les 1er et 5e arrondissements. Les nombreux appels au calme, dont celui de la présidente de la transition depuis New York, semblent tomber dans l'oreille du sourd, car sur le terrain, la réalité des faits démontre le contraire. Jusqu'en début d'après-midi, la MINUSCA a renforcé son dispositif dans la ville. Des casques bleus ont été déployés au sol afin de démanteler les barricades pour faciliter le retour au pays de la présidente Catherine Samba-Panza. Mission très compliquée dans les quartiers nord où des accrochages ont été régulièrement enregistrés entre forces onusiennes et hommes armés. Dans une déclaration ce matin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que certains officiers de l'armée nationale bien connus ont voulu profiter de la situation pour déstabiliser la transition. Le grand jour à craindre est ce mercredi 30 septembre, jour de rassemblement populaire de la société civile pour exiger le redéploiement des forces armées centrafricaines et l'application du mandat de la MINUSCA. Ces violences déclenchées le samedi 26 septembre ont déjà fait plus de 60 morts et plus d'une centaine de blessés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et de 4 de ses proches s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir pensé et coordonné un plan depuis sa cellule de La Haye pour corrompre financièrement 14 témoins avec l'aide de 4 co-accusés. Le but était d'obtenir l'acquittement de M. Bemba dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis en Centrafrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sommet sur le terrorisme mondial en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain Barack Obama a de nouveau réclamé ce mardi le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes de l'État islamique. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre Daesh, n'a envoyé qu'un diplomate à ce sommet. D'autres détails sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Nous avons sur place notre envoyé spécial, Tatiana Mosso.
Alors, moins de sirènes et de cortèges qu'hier, moins de voitures blindées noires dans les rues de New York. Cependant, des réunions au plus haut niveau, vous l'avez dit, continuent de se tenir dans la matinée, réunies autour de Barack Obama et de Ban Ki-moon, le président nigérian et le premier ministre irakien, pour une discussion sur les violences extrémistes devant un parterre de chefs d'État, vous l'avez précisé, 60. L'occasion donc de parler en longueur des menaces terroristes, notamment en Afrique avec Boko Haram. Au deuxième jour de cette 70e Assemblée générale, les sujets africains restent timidement abordés. Toutefois, les interventions des leaders africains ont été moins suivies, étant donné qu'elles étaient très tard hier soir. Elles se poursuivaient toutefois ce matin, mais dans une relative discrétion. Certains chefs d'État ont déjà quitté New York, comme la centrafricaine Catherine Samba-Panza, rentrée en urgence, ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, reparti pour le Mali. L'un des grands absents, Alassane Ouattara, le président ivoirien en pleine campagne électorale pour un second mandat présidentiel. Pourtant, les dossiers chauds sur le continent africain ne manquent pas. La question du terrorisme, les crises politiques du Burundi, Burkina Faso, du Soudan du Sud ou encore de la Centrafrique où l'escalade de la violence est plus que jamais importante. Il restera enfin une journée à la communauté internationale réunie sous les drapeaux de la Cour des Nations Unies ici pour se pencher aussi sérieusement sur le sort des pays où la société civile semble en pleine mutation, comme on observe par exemple au Congo-Brazzaville ces derniers jours.
Merci Tatiana. En Afghanistan, les forces gouvernementales soutenues par l'aviation américaine ont tenté aujourd'hui de reprendre aux talibans le contrôle de Kunduz, la cinquième plus grande ville du pays, au lendemain de sa prise surprise par les rebelles. Les talibans, eux, veulent y appliquer la loi islamique stricte. La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. Lionel Gaïma.
La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. La facilité avec laquelle les rebelles se sont emparés de la ville jette une lumière crue sur les limites des forces gouvernementales qui les combattent seules sur le terrain depuis le retrait à la fin 2014 de troupes de combat de l'OTAN. Les talibans paradent dans Kunduz à bord de 4x4 volés, scandant Allahu Akbar et appelant les habitants de la ville à la soumission et à la délation.
Je demande à chacun d'entre vous d'aider les Moudjahidines à dénoncer les traîtres et les hypocrites. Et ceux qui se comportent mal envers le peuple.
Même temporaire, la prise de Kunduz assure aux talibans un ralentissement international qui pourrait permettre à leur nouveau chef d'asseoir sa légitimité. Les talibans ont ainsi publié une vidéo de 10 minutes sur les réseaux sociaux pour mettre en scène leur victoire, vidéo où les insurgés assurent qu'ils vont appliquer une interprétation stricte de la charia. Entre 1996 et 2001, lorsque les talibans ont dirigé l'Afghanistan, l'éducation et le travail des femmes étaient interdits, ainsi que la musique et les loisirs.
Merci Lionel Gaïma. Au Yémen, le bilan d'une frappe aérienne dans le sud-ouest du pays est passé à au moins 130 morts, selon les sources médicales et onusiennes. La presse fait état d'une attaque contre un cortège nuptial, mais la coalition arabe luttant contre les rebelles chiites nie toute responsabilité. La crise persiste malgré une offensive de 6 mois visant à déloger les Houthis de Sanaa et d'autres régions du Yémen. Le président Mansour Hadi et son cabinet ministériel sont revenus à Aden, dans le sud, la semaine dernière après 6 mois d'exil en Arabie saoudite. Et au Bangladesh, les missions diplomatiques occidentales ont averti leurs ressortissants d'éventuels attentats terroristes suite à la mort d'une Italienne dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Selon l'ambassade américaine à Dhaka, il existe de nouvelles informations fiables indiquant que les militants pourraient viser des intérêts australiens et d'autres étrangers, y compris des Américains. Voilà pour ce résumé des principales nouvelles du monde. Washington, chez Robin Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite,